Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans quelques minutes, et comme chaque troisième tumulte de chaque mois, Sylvie Neve nous présentera son poème provisoire. Puis dans 30 minutes, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1024. Jean au micro, salut! Fat Jam en concert. Archichep, Napoléon Maddox.
Checking out the scene at Racing 13. Brothers on the corner, steady making a green. If you want it, you can get it, do whatever you need. From crack to smack, from weed to speed. Lyrics heavy on the social if you're checking the vocal. This ill is universal, right, surpassing the local. Cats scrambling in the gutter for supply and demand. Look outside your windows, he out of corner is ran. Kids out selling it, keeping the fiends choking. Maybe out huffing and puffing and talking. You need to know, it's scaring you. This is the illest politic that's running America. It goes cocaine business controls America. Ganja business controls America. Illegal business controls America. Cause George Bush controlled America. Now the oil business controls America. Gun business controls America. War business controls America. Cause George Bush fucked up America. Now check it. Every day there's a brand new child. Every day shoes are crafted in a brand new style. And if you keep the block hot, you got some shoes in a pile. And a list of plants that's been buying for a while. So every material item equals a junkie satisfied. You're rocking ice on the wrist and chrome on the ride. You committing a crime and they committing suicide. You didn't fly the dope in, but it's not justified. And it's not hard to figure out why our reverence died. When America caught us niggas and spit in our eyes. Plus we broke so the average laws don't apply. Half the junkies know and that's why. The cocaine business controls America. Ganja business controls America. Illegal business controls America. Cause George Bush controlled America. Now the oil business controls America. Gun business controls America. War business controls America. Cause George Bush fucked up America.
Bonjour, tumulte. Et toujours du tumulte dans les contes. Il était une fois Barbe Bleue, expansé pour les auditeurs de tumulte. Résumé du chapitre précédent. Un riche roturier qui fait peur à cause de sa barbe bleue et parce qu'on ne sait pas ce que sont devenues ses précédentes épouses, veut se remarier. C'est la barbe bleue, c'est la barbe bleue. Pourquoi bleue ? C'est la barbe bleue, c'est la barbe bleue, sauf qui peut. Une voisine, dame de qualité, avait deux filles à marier. Deux filles très belles. Voisine noble, à qui la barbe bleue demande en mariage l'une de ses deux filles, celle qu'elle choisirait. Sans dot, les filles, pauvre la mère, quoique noble. Choisissez, j'épouserai celle que vous voulez. Certes, argent, mariage, mais c'est la barbe bleue, c'est la barbe bleue. Remarie qui veut. C'est la barbe bleue, c'est la barbe bleue, sauf qui peut. Cette mère, noble, pauvre et veuve. Ses filles, belles, pauvres, à marier. Cet homme, qui en a pour son argent. Elle s'adresse d'abord à l'aînée. Mariez-vous, ma fille. Vous aurez satisfait une mère, une sœur, et vous aurez surtout satisfait l'honneur d'être femme. L'aînée prévient sa sœur. Notre mère, petite sœur, la barbe bleue. Il était une fois aînée, cadette, mère, pauvre, noble mais pauvre. La plus jeune se dérobe. Anne, ma sœur Anne, suis-je en âge, moi, de me marier ? L'aînée proteste. Ah, mère, notre mère, comment pouvez-vous nous faire part d'une telle demande en mariage. Mère, nous marier ? Notre mère nous marierait à cet homme ? Comment imaginer que l'une de nous ne répugnerait de satisfaire à cette demande, satisfaire votre volonté, satisfaire cet homme à la barbe bleue ? Amère consolation que de vous satisfaire. La puînée répète « À peine suis-je en âge, moi, de me marier ?» Fin de s'étonner « Mère, voudriez-vous vraiment que l'une de nous deux épousât un homme à la barbe bleue ?» L'aînée enfin « Nous refusons, mère. N'était sa barbe bleue, son veuvage, maintes fois renouvelé, ne nous dit rien qui vaille. Quel sort s'acharne à le rendre veuf et sans enfant ? Ou bien quelle part prend-il à ce mauvais sort ? Oui, mère, s'exclame la cadette, ce qui nous dégoûte enfin, c'est de ne pas savoir ce que ces femmes sont devenues. C'est la barbe bleue, c'est la barbe bleue. Remariera pas qui veut. Bientôt, la barbe bleue vint aux nouvelles. Love qui peut. Il était une fois un riche. Veuf et gaillard, en homme pressé de se faire choisir, de se faire haïr. Ah, mais... À la réticence de la mère, il comprit qu'aucune des deux filles ne voulait de lui. En fut-il blessé, meurtri, contrarié, furieux, émoustillé. N'en laissa rien paraître, invita la famille et ses amis à un séjour dans l'une de ses maisons de campagne. Il était une fois deux jeunes filles et leur mère, jeunes gens du voisinage, meilleurs amis, maisons de campagne, bon vin, mets en abondance, conversation, musique. Anne chante, la cadette joue du luth. Musique, l'homme mûr, aime la musique du luth et la jeunesse. L'homme mûr aime les doigts de la jeune fille sur les cordes du luth. L'homme mûr aime la musique et la jeunesse de la plus jeune. L'homme mûr aime les doigts de la jeunesse sur le corps du luth. Murmure l'homme. Que dit-il ? Que dit-il à la plus jeune ? Que dit-il aux doigts graciles, aux mains pubères et musiciennes ? L'homme est sûr de son murmure. Il murmure belles phrases habiles sur le corps et sa musique. Ouïr, dit-il, et touche la jeune fille aux doigts savants. Lui sait séduire et touche la jeune fille à un doigt du cœur qu'il sait ouvrir. Ouïr, dit-il, elle sourit. Fuir, dit-il, elle rit, elle rougit. Ah, rougiront joues, cuisses, draps. C'est la barbe bleue, c'est la barbe bleue. Pas si bleue, c'est la barbe bleue, pas le sang bleu, amoureux.
Kam se schovávám, nevím kam, ni já, ani sen, světlo, ani tma, má, ani tvá, ani bílá, ani černý, potom, ani hned, tady, ani teď, ani tma, ani den, tady, ani tam, nemám, ani má.
Feuilleton Barbe Bleue, troisième mardi de février. À bientôt, tumulte.
C'était le poème provisoire de Sylvie Neve, comme chaque troisième tumulte de chaque mois.
Jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned nečekám dávno. Jsme oba zpět a já dávno tam, sama nevím kam, nevíš sám. Ani tma, ani den málo, ani moc, den a ani noc, ani já, ani jsem tady, ani tam, sama, ani sama, ani bílá, ani černý, dobrá, ani zlá, ty a ani já.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9. Libre et sans pub.
Nehledej někde se snadno hledá, neklekej si, kde je země měká, neklekej.
Et dans 13 minutes, le journal de Tumulte avec Guy, nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1.
So How do you feel after 5 million years, 5,000 years of raw wild dance and big pasha say? A bit tired maybe, or still ready to contribute to the great destiny of Occidental dream? Stalking old people, children and dead in fridges like old radioactive mustard pots.
Fantasio. Extrait de l'album 5000 ans de danse crue.
Populaire, maire de la rue, se retrouve camisolé de force, signé troué, tous ses enfants revendus ne dansent plus, ne chantent plus, elle ne réagit plus. Les quelques bouche à bouche à l'air pollué que j'ai tenté l'ont laissée morte et nue. Seront partis. Tu es une des seules sur qui on pourra compter. Nous, être fragiles, écartelés, divisés, dévalisés aux cinq sens vidés de la sève mère des instincts. T'as fait cuire un feu mou, tu bouillonnais. Des chants chinois à feu doux enveloppaient le ventre des femmes passantes. Chavirait à l'odeur des sons comme du vent frais sous leurs boubous sans nom. Les magasins de guitare t'ont violé, les festivals de jazz t'ont achevé. Amour et ange perdu, que j'ai voulu sauver ta peau en criant, je ne te vois plus, je ne t'entends plus, je n'aurai plus jamais de mots. Je te désire comme une déesse des années 10 qui dans la semence des temps s'en allait, chancelante, changeante, mouvante, faisant feu de tout vent brûlant. Melody will shine and dance around your lungs. Which harmony will rot inside behind your dirty skin? Your bones will swim behind your dirty skin. Your bones will swim.
La musique populaire marque au fer rouge les transmissions de mère en fils, de père en frère. Témoigne des moments doux comme des indicibles guerres, guérisseuse d'âmes perdues. Penseuse de corps en guerre, passeuse de frontières. La musique populaire, bâtarde, fière, traînant des casseroles de fonte, d'argent, de fer, entraînant sa patte folle où se bouscule, couplet, décuplé, ritournelle, mélopée, sacré, salopé, nacré, simplifié, savante, plaintes indiennes, profane, chanson de ruelle.
C'était la musique populaire de Fantasio.
Emmène, là, tu vois, j'ai une petite amie.
The Soul Jazz Orchestra. Bachung pour une chanson composée avec Gaëtan Roussel hier à Sousse, et ensuite ce sera le journal de tumulte.
Ici à Sfax, ici à Sfax, hier à Sousse, hier à Sousse, demain Paris, demain Paris, aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur. À nous des lits, à nous des lits. Hier à Sousse, hier à Sousse. Aucun amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur. À nous New York, hier à Sousse, hier à Sousse, demain Paris, demain Paris, aucun cadran n'affiche la même heure, aucun amant ne livre la même humeur. À l'intérieur, à l'intérieur, coule la Garonne, coule la Garonne. Pas un amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur.
New Delhi. Jésus, Jésus. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne vit dans la même humeur.
Journal de tumulte avec Guy. Nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Au programme, la situation de l'emploi en France et en Allemagne, analyse comparative, le temps de travail en France, bilan de la RTT, et pour terminer, des Clio produites en France, est-ce le bon débat ? Pour commencer, donc, la situation de l'emploi en France et en Allemagne, on a eu des chiffres qui permettent de faire des comparaisons, Laurent.
Effectivement, oui, et avec une situation assez contrastée et qui pose des questions assez intéressantes. Alors d'abord, peut-être sur la situation du marché du travail français récemment, on peut faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois. Et on apprend avec les statistiques de l'INSEE et celles de l'UNEDIC que l'économie française a supprimé à peu près 400 000 emplois dans la dernière année, dans les 12 derniers mois. 400 000 emplois et les suppressions d'emplois continuent à s'effectuer à un rythme assez effréné puisque on est encore sur le troisième trimestre de l'année 2009, c'est le dernier trimestre pour lequel on a des chiffres complets, on est encore sur un rythme de suppression d'emplois de l'ordre de 80 000 par trimestre. Alors c'est certes moins catastrophique qu'au premier trimestre de l'année 2009. Là, il y avait eu 178 000 suppressions d'emplois en un trimestre. Deuxième trimestre, ça avait été 87 000, mais le troisième trimestre, c'est toujours 80 000. Alors qu'il y avait eu des prévisions assez optimistes de l'INSEE qui disaient non, la situation va se ralentir. En réalité, quand on fait le bilan, il n'y a pas eu du tout de ralentissement par rapport au deuxième trimestre. Ce qui fait qu'au total, depuis le quatrième trimestre de l'année 2008, il y a eu 400 000 suppressions d'emplois en France et le taux de chômage français ne devrait pas tarder à dépasser les 10%.
Alors on a aussi des chiffres sur l'Allemagne, ce qui permet de faire des comparaisons.
Oui, ce qui est très étonnant, c'est le contraste avec l'Allemagne. L'Allemagne qui a subi la crise économique de manière bien plus brutale que nous, en particulier parce que l'Allemagne, de par son insertion dans la division internationale du travail, très tournée vers les exportations et a subi de plein fouet le ralentissement, comme on dit, de la demande mondiale. Bon. Et donc l'économie allemande a plongé à peu près de 5%, moins 5% de PIB sur l'année 2009, hein, alors que pour la France, c'était limité à 2-2,5%. Et ben dans ce contexte où la croissance en Allemagne a très fortement ralenti, lui, le chômage a très très peu augmenté. Le taux de chômage en Allemagne est passé de 7,2% de la population active à 7,6%. Bon, on est pratiquement sur l'épaisseur du trait, pendant que la France, elle, passait de 7,8% de chômeurs à 9,8%. 1,2. Alors ça, c'est la croissance du chômage entre septembre 2008 et juin 2009. Alors comment s'expliquer ces différences de performance en termes d'emploi ? Et c'est là que l'explication commence à être intéressante. En Allemagne, on a massivement utilisé des dispositifs de chômage partiel. Il y a 1,4 million salariés qui ont pu bénéficier de ce type de dispositif. Alors c'est quoi le chômage partiel ? Le chômage partiel, c'est on ne vous licencie pas en cas de baisse d'activité de l'entreprise. On vous garde dans l'entreprise simplement pendant 2 semaines, 3 semaines, 5 semaines, peut-être parfois 2 mois. L'entreprise ne vous utilise pas et vous êtes indemnisé tout de même par un dispositif d'assurance chômage partiel. Mais dès que l'activité reprend dans l'entreprise, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire de réembauche. Vous êtes toujours un employé.
C'est l'État qui intervient ?
Alors, dans ces dispositifs, alors en Allemagne, ce sont les régions et l'État. En France, dans ces dispositifs qui ont été beaucoup moins utilisés, c'est l'assurance chômage qui utilise ce genre de remède. En France, ça a été 500 000. Le maximum de personnes à un moment donné mises en chômage partiel. Donc ça explique déjà une très grosse différence dans la manière de gérer, comme on dit, les ressources humaines. C'est-à-dire que quand même, dans les entreprises allemandes, on n'a pas ajusté directement par les effectifs. On les garde en espérant que ça va redémarrer. Et on a recours à ces dispositifs
d'indemnisation partielle. Mais il faut que ça redémarre aussi. Il faut
bien entendu que ça redémarre. Et alors si ça ne redémarre pas de manière significative dans les mois qui viennent, là, ça se traduira certainement par des mises au chômage.
Ouais. Et est-ce qu'il y a une différence entre les personnes qui sont donc en Allemagne au chômage partiel, du point de vue rémunération, et celles qui en France sont au chômage au chômage rémunéré, enfin avec une indemnité de chômage, un certain pourcentage de leur salaire. Enfin, est-ce que en fin de compte, pour les salariés, le résultat dans le quotidien au niveau revenu n'est pas le même ?
Alors, il y a des baisses de salaire. Tu me poses une colle pour te dire exactement à quoi elles correspondent. Quand tu es au chômage partiel, tu ne touches pas une indemnisation qui est équivalente au salaire régulier. Non seulement ce n'est pas équivalent au salaire régulier, mais beaucoup de salariés perdent aussi les heures supplémentaires dans ces cas-là. Mais tout de même, le chômage partiel est mieux indemnisé que le chômage standard. Alors en France, c'est le cas, mais ne me demande pas à quel taux, etc. Je ne les ai pas en tête. Alors ça, c'est quand même la première explication de la régulation des différences de régulation sur le marché du travail. Le reste, c'est un petit peu moins glorieux pour l'Allemagne tout de même, parce que qu'est-ce qui explique aussi ces différences en termes de taux de chômage ? C'est que la population allemande, la population active allemande, a diminué fortement dans la période. Alors, non seulement elle diminue parce qu'il n'y a plus de croissance démographique en Allemagne, et donc il n'y a plus de croissance de la population active, voire même une légère diminution, mais en plus, 500 000 personnes sont carrément sortis du marché du travail à cette occasion-là, c'est-à-dire que éventuellement s'ils ont été licenciés, ils sont passés du côté de la population inactive, grosso modo en anticipant une retraite ou quelque chose comme ça. Bon. Donc il y a quand même eu 500 000 personnes sorties de la population active pendant la durée de la crise, c'est-à-dire des gens qui, voyant qu'il n'y avait plus de perspective d'emploi, finalement n'en recherchaient plus. Bon.
Et ce phénomène-là existait en France ?
En France,
beaucoup plus faible.
En France, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la population active continue à croître. Et dans la même période, elle a cru de 250 000 personnes. Mmh. Donc quand on examine les différences de performance en termes de chômage, il faut quand même ramener dans le tableau l'évolution de la population active et pas simplement comptabiliser les pertes d'emploi qui se sont produites ou ne se sont pas produites. Donc ça, c'est un deuxième aspect.
Et d'un point de vue économique, cette augmentation de la population active, c'est quand même a priori une source de croissance, non ?
C'est une source de croissance si la demande adressée aux entreprises est elle-même en croissance. mais dans une période qu'on a connue qui est rigoureusement l'inverse, c'est-à-dire une récession où la demande s'effondre, où les carnets de commandes des entreprises s'effondrent, à ce moment-là, le fait de disposer de plus de main-d'œuvre, ça se traduit immédiatement par du chômage. Ça ne se traduit pas par de la croissance et de l'activité supplémentaire. Et à l'inverse, si l'économie était extrêmement dynamique, elle pourrait absorber cette population active et ce serait effectivement intéressant. Alors, il y a un troisième aspect de la régulation du marché du travail qui est à souligner en Allemagne, c'est qu'il y a eu massivement ces dernières années des créations de vraiment petits boulots qui ont été d'une certaine manière institutionnalisés sur le marché du travail. Donc c'est des emplois à peu près rémunérés 400 euros par mois qui sont complètement détaxés de charges sociales. Donc vraiment des petits boulots, quoi, des espèces de presque de stages, quoi, si on peut parler comme ça. Et la proportion de salariés qui occupent ces petits boulots en Allemagne, elle est passée de 6% à 13% de la population active depuis 1995.
Mais ça, c'est c'est des contrats précaires qu'on trouve aussi chez nous, par exemple.
Ah bah, chez nous, on n'a pas le droit de travailler en dessous du SMIC, donc si vous êtes à temps plein, si t'es à temps plein pendant un mois, tu gagnes tout de même 1000 euros. Certes, les cotisations patronales sont quasiment supprimées au niveau du SMIC, mais les salariés, eux, cotisent encore à ce niveau-là. Donc c'est pas du tout tout de même ce... La précarité chez nous, c'est le temps partiel, et puis les séquences d'emploi extrêmement courtes avec les CDD.
Les contrats précaires, des contrats... Enfin bon, j'ai plus les noms en tête. Il y a des gens qui sont recrutés, qui
contrat
à venir. Ils travaillent 26 heures par semaine ou 20 heures sur la base de 600 euros par mois, par exemple.
D'accord. Je ne dis pas que c'est des contrats royaux, mais pour l'instant, on n'a pas inventé tout de même contrats salariaux.
C'est pas dans le privé.
Rémunérés en dessous du SMIC.
Et là, c'est tout secteur. Ça peut être dans le public, dans le privé.
Alors là, tu me poses une colle, mais a priori, oui. Hein. A priori, oui. Et puis, autre aspect incroyable de l'économie allemande, quand même, c'est que depuis 1993, mais parce que là, c'était la norme de référence, le partage de la valeur ajoutée n'a cessé de se dégrader en défaveur des salariés allemands pour justement conforter ce modèle d'exportation. Et de plus en plus, l'Allemagne s'est tournée vers la demande extérieure pour faire tourner ses entreprises et réaliser des profits. Et pour se tourner vers cette demande extérieure, elle a mis carrément sous pression les salaires. Et grosso modo, les salariés ont perdu quasiment 10 points de valeur ajoutée depuis 1993. C'est-à-dire qu'ils avaient à peu près 68% dans le partage salaire-profit en 1993. Aujourd'hui, c'est 58%. Donc, on a vraiment un modèle allemand qui ressemble quelque part à de la taïwanisation de son économie. Et grosso modo, c'est vraiment un phénomène de bascule. C'est-à-dire, on fait pression sur les salaires pour se retrouver compétitif à l'exportation. Évidemment, les salaires baissant en Allemagne, c'est plus eux qui fournissent les débouchés des entreprises allemandes, mais c'est l'extérieur. Alors, c'est vraiment un modèle absolument non coopératif et délétère. Voilà donc bilan nuancé sur les performances en termes d'emploi de l'Allemagne.
Tu parlais là, un petit mot sur l'Allemagne encore de partage de la valeur ajoutée. Moi, je pensais à partage du travail parce que bon, je reviens un peu sur l'idée de chômage partiel. En même temps, on est peut-être plus dans une conception de partage du travail parce que bon, tu es en chômage partiel. C'est pas la même chose que quand tu es en chômage tout court, je pense. Il y a peut-être aussi cette notion-là, quoi. Donc, psychologiquement, ça se vit mieux. C'est peut-être aussi lié à... je pense que le partage du travail en Allemagne, c'est quelque chose de non négligeable. Enfin, cette idée, quoi. Donc, qui est à l'inverse de ce que tu viens de dire, quoi. Il y a quand même une forme de solidarité aussi sociale.
Oui, non, mais c'est pour ça que il faut vraiment parler d'un bilan contrasté, parce que à la fois les régulations du marché du travail sont assez sévères, assez brutales, et conduisent à une espèce de comme on peut pas trouver de meilleur terme, de taïwanisation de cette économie avec une déflation salariale terrible. Et puis en même temps, c'est vrai que dans les entreprises, disons le compromis social a l'air d'être plus robuste et d'avoir été moins grignoté par la dictature des actionnaires que dans d'autres pays. Et tu as raison, du chômage partiel, c'est une forme de partage du chômage, si j'ose dire, qui fait qu'au lieu que ça tombe sur simplement 2 à 3% des têtes, on le répartit sur une plus grande part de salariés de l'entreprise et en leur donnant simplement des petits bouts de chômage, c'est-à-dire un ou deux mois à chacun plutôt que un an ou deux à quelques-uns.
Bon, partage du chômage, ça fait moins que partage du travail. Hein, mais bon, l'objectif, c'est le partage des richesses. Hein,
disons que quand c'est défensif, il vaut mieux, quand c'est purement défensif, il vaut mieux parler de partage, partage du chômage.
Sur le thème plus général de l'emploi, hein, genre deux remarques. Une première, et là je reviens à la situation en France, hein, tu évoquais la deuxième, ce sera la fonction publique, hein, on y reviendra après, un petit mot là-dessus, puisqu'il y a aussi des suppressions d'emplois dans la fonction publique. Mais apparemment, bon, je sais que Laurent, tu lis plus le Monde de l'économie, mais le Monde de l'économie de cette semaine titre 1 million de chômeurs en fin de droit en 2010. Et si rien n'est fait, 600 000 d'entre eux n'auront aucune aide de l'État. Donc on arrive, avec l'augmentation du nombre de chômeurs, à des chômeurs qui arrivent en fin de droit, à une situation vraiment préoccupante.
Absolument. Non mais il n'y a pas d'autre mot. Enfin, c'est extrêmement préoccupant. Parce que là, il n'y a plus rien. Une fois qu'on a dépassé ces limites, il n'y a vraiment plus grand-chose pour rattraper le coup. La dernière chose, on le sait, pour rattraper le coup, c'est le RMI ou son successeur qui est le RSA. Et grosso modo, c'est à peu près 450 euros par mois. Donc, fin de droit au chômage, ça veut dire être attrapé par les minima sociaux avec lesquels, on le sait bien, on ne vit pas parce qu'ils ne sont absolument pas situés au niveau du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté en France pour une personne seule, c'est plutôt 880 euros. Bon. Donc, vous avez un minimum à vivre qui n'assure même pas le minimum à vivre. Donc, on risque d'avoir effectivement une situation sociale absolument pourrie. Et des gens qui vont vraiment basculer dans des situations épouvantables.
Bah, il faudra qu'on en reparle, hein, Jean. Alors un mot encore sur la... Hein, toujours pour moi, ça fait partie un petit peu de ce thème, la fonction publique. On sait qu'il y a une journée de mobilisation dans la fonction publique jeudi. Bon, il y a quand même 100 000 suppressions de postes, suppressions d'emplois dans la fonction publique depuis 2007. Hein, c'est un chiffre peut-être à contrebalancer avec le nombre de chômeurs en plus. Et bon, l'argument principal, quand même, la grande idée, c'est de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. La grande explication, c'est une explication budgétaire, même si je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Bon, la remise en cause quand même du service public et puis la promotion du privé justement dans ce domaine. Mais est-ce que l'argument budgétaire tient vraiment? Bon, moi j'ai quelques chiffres qui ne sont pas précis. Peut-être, Laurent, toi, tu pourras les préciser. Mais un emploi, un retraité sur deux non remplacé dans la fonction publique, ça coûterait environ 500 millions d'euros par an. Le déficit...
Les gains qui sont faits en termes de...
Ça économise.
500 millions par an.
Ouais, c'est dans l'autre sens, effectivement.
Pour combien de non-remplacements? Pour combien de...
un sur deux. Donc là, depuis 2007, c'est 100 000. Je pense que donc ça fait 50 000
par an.
Bon, par rapport au déficit budgétaire, parce que c'est ça aussi le déficit budgétaire. Hein, on est à près de 100 milliards de...
150. On y va.
Et alors, un autre exemple, la baisse... Là, il faudrait que tu me confirmes. La baisse de la TVA...
Pour les restaurateurs,
ça a coûté, là, cette fois, ça a coûté apparemment près de 10 milliards à l'État. Donc cet argument...
Il faut le dire, parce que on est sur des choses éminemment scandaleuses, pour peut-être entre 10 000 et 30 000 créations d'emplois dans le secteur de la restauration. Et encore, les chiffres que je sors ici, ce sont les promesses, on ne peut même pas dire les engagements, les promesses des professionnels du secteur de la restauration. Donc on a grosso modo d'un côté 10 000 à 30 000 créations d'emplois qui vont nous coûter 2 milliards par an, 2 milliards 7, et puis de l'autre côté on fait des économies de 500 millions d'euros en mettant 50 000 personnes sur le carreau, parce que ceux qui ne sont pas remplacés, c'est tout de même des gens qui ne trouvent pas d'emploi.
Donc maintenir le niveau d'emploi et même éventuellement créer de l'emploi dans la fonction publique, ça ne remettrait pas du tout en cause l'équilibre.
Non seulement, c'est vraiment des économies de bout de chandelle, mm-hmm. bon, parce que ça n'a aucun sens budgétairement. On ne va pas se relever du déficit public avec ce type d'économie. Si on compare, par exemple, à la somme des réductions d'impôts qui ont été votées en France depuis 2000, ça fait 30 milliards de manque à gagner pour les caisses de l'État par an. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut résoudre le déficit budgétaire en faisant 500 millions d'euros, en supprimant 50 000 fonctionnaires par an. Mais c'est absolument scandaleux, délirant, complètement délirant. Mais en fait, quand on relit les thèses de Serge Halimi sur les gouvernements conservateurs, ils font toujours comme ça. C'est-à-dire qu'ils votent des baisses d'impôts, les finances publiques se retrouvent en déséquilibre, et qu'est-ce qu'on dit ? Il faut baisser les dépenses publiques et l'emploi public. Donc en réalité, le bras de levier qu'ils utilisent, c'est la démagogie de la baisse d'impôts. Mmh. Ils précipitent devant l'opinion publique le gouffre des finances publiques qu'ils ont eux-mêmes créé. Et ensuite, ils disent qu'il faut tailler dans les effectifs de la fonction publique.
En pointant un fonctionnaire qui a toujours eu une mauvaise image, bouc émissaire, mais un fonctionnaire dans son bureau, mais en rappelant que la majorité des fonctionnaires, ce sont des personnels soignants, ce sont des enseignants, etc. En plus. Donc tout le monde dans la rue, jeudi alors.
Écoute, là, je crois qu'il faut y aller.
Does me
Big Chestnut sur Radio PFM 99.9 magazine Tumulte. Nous recevons Laurent Cordonnier avec Guy. Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Après la situation de l'emploi en France et en Allemagne, la question du temps de travail en France, bilan des RTT, Guy.
Oui, il y a Laurent.
Bonne année. C'est ça que tu voulais dire?
Ah, pas du tout, genre. Pas du tout. Bananier et non et pommes sautées, c'est ça. Ça peut être une bonne idée pour tout à l'heure. Non, mais bonne année quand même, hein, Jean. Non, Laurent, il avait un chiffre à donner toujours sur le.
On a sorti la calculette.
Ouais, il a sorti la calculette de son brevet là. Et un chiffre à donner par rapport à.
Oui, pour revenir sur le, ouais. Pour revenir sur les comparaisons du coût ou des économies faites par l'État lorsqu'il néglige de remplacer des fonctionnaires, et on peut le comparer au coût de certaines politiques de l'emploi et en particulier les baisses de charges sociales qui ont été accordées aux entreprises pour baisser le coût du travail au niveau du SMIC. C'est 25 milliards de baisses de cotisations sociales annuelles pour les entreprises. Les économistes, disons les plus favorables à ce type de politique, estiment que ça a permis, dans un premier temps, de créer entre 300 000 et peut-être 700 000 emplois. 300 000 ou 700 000 emplois qui, aujourd'hui, grâce à ces ristournes qui sont faites annuellement, seraient sauvegardés. Bon. Et donc, quand on divise 25 milliards d'euros par ces 300 000 emplois créés, on obtient que le coût d'un emploi maintenu dans le secteur privé grâce au financement public, c'est 83 000 euros par an. 83 000 euros par an. Alors, si on prend le haut de la fourchette optimiste, on divise par deux, c'est 40 000 euros. Ça veut dire qu'on donne aux entreprises 40 000 euros par emploi pour qu'ils soient créés ou maintenus dans ce type de politique. C'est la plus grosse politique de l'emploi française. Écoutez, avec ça, il y a de quoi faire deux postes de fonctionnaires. Et si on prend l'estimation basse, quatre postes de fonctionnaires. Donc il faut vraiment avoir une haine stupide, infantile, de la fonction publique et des biens collectifs pour faire ce type de choix politique. Et ce type de choix politique, il regarde quand même tous les citoyens, parce que ces ristournes de charges sociales faites aux entreprises, c'est un manque à gagner pour la sécurité sociale. Et c'est l'État qui comble ce manque à gagner, c'est-à-dire finalement nos impôts. Et donc nos impôts vont directement alimenter en subvention les entreprises, à la hauteur, on vient de le dire, de 40 000 ou 80 000 euros par emploi. C'est complètement hallucinant. D'autant plus que ces gens qui sont employés dans ces entreprises, quand même, ils n'ont quand même pas une productivité égale à zéro. Sans doute qu'ils font de la valeur ajoutée, et que cette valeur ajoutée est vendue par l'entreprise. Donc il s'agit bien, au total, d'un renflouement des bénéfices des entreprises. Donc là, je crois que on est vraiment sur des symptômes forts de ce que l'idéologie libérale ou néolibérale a créé comme dégâts de confusion dans les esprits. C'est plus une république, une démocratie qui résonne de cette façon-là. Bon, voilà. Alors maintenant, on peut passer au temps de travail.
Alors là aussi, ont été publiés des chiffres sur le temps de travail effectif du salarié français.
Alors pas seulement du salarié français, oui, parce que c'est des comparaisons
européennes.
C'est des comparaisons européennes et même
entre autres
et même mondiales. Et l'INSEE a publié récemment, c'était au mois de décembre. Non, je me trompe de fiche. C'était au mois de janvier, donc ça vient de sortir, un INSEE première qui s'appelle 60 ans de réduction du temps de travail dans le monde et qui est fort intéressant. Et il montre finalement qu'il y a une grande convergence entre la plupart des grands pays développés, en particulier les 10 pays du top 10 en termes de PIB par habitant. Il y a une grande convergence dans l'évolution du temps de travail, sauf pratiquement pour le Japon et un petit peu aussi pour les États-Unis. Mais par exemple, si on prend l'ensemble des pays européens, les 6 grands pays européens qui ont le PIB par tête le plus important, bah grosso modo, les évolutions du temps de travail sur longue période, c'est-à-dire entre 1950 et 2006, sont très similaires et nous ramènent à peu près au même niveau. Alors, il faut peut-être donner des chiffres pour que ça parle un petit peu mieux, mais ce sont des enquêtes sur la durée annuelle de travail des travailleurs, on va dire, ramenée par travailleurs. Et donc en France, la durée annuelle de travail, c'est de 1559 heures, tous salariés confondus, c'est-à-dire y compris temps partiel. 1559 heures. Un petit peu moins que nous, il y a l'Allemagne, pratiquement 100 heures par an de moins, 1432 par salarié, et puis encore moins les Pays-Bas. Et puis un petit peu plus que nous, il y a l'Italie, il y a la Suède et il y a le Royaume-Uni. Si on va jusqu'au Royaume-Uni, ça fait 1600 heures par an. Bon, il y a un écart de 50 heures avec la France, à peu près. Donc on voit quand même que l'exception française, entre guillemets, et les 35 heures, c'est pas tellement une exception française, et que quand on fait le gros total de la contribution de chaque salarié sur l'année, on arrive à des choses très similaires. En fait, pour avoir des décrochages avec nos modes de fonctionnement, il faut aller voir l'Espagne, 1775 heures par an, le Japon, 1784, les États-Unis, 1785, et la République de Corée, 2165. Mais on voit bien donc qu'on n'est pas du tout une exception en Europe avec nos 35 heures. Alors pourquoi ? Pourquoi finalement avec nos 35 heures on n'est pas une exception ? Il y a deux raisons principales. C'est que d'abord les salariés qui sont légalement à 35 heures et les salariés à temps plein ne travaillent pas 35 heures. En gros, ils travaillent plutôt 39-40. Voilà. Parce qu'on a suffisamment détricoté les lois de la réduction du temps de travail pour déplafonner le contingent des heures supplémentaires. Je crois que maintenant, on peut en faire 230 heures par an. Donc, en réalité, c'est les 4 heures qui permettent d'aller de 35 à 39. Et puis ensuite, on a encouragé l'usage de ces heures supplémentaires par des dispositifs de défiscalisation. Donc, grosso modo, les salariés qui sont théoriquement à 35 heures en France, ils bossent plutôt 39 ou 40. Donc, c'est très similaire avec ce qui se passe dans les autres pays. Et puis dans les autres pays, on a quand même massivement utilisé le temps partiel, qui est comptabilisé dans ces statistiques. Et là, il faut quand même donner les chiffres. Le taux de travailleurs à temps partiel en France, c'est 17%. En Allemagne, c'est 26%. Et aux Pays-Bas, c'est 47%. En Suède, c'est 25%. Au Royaume-Uni, c'est
25%. 47% aux Pays-Bas ?
47% aux Pays-Bas. Alors, c'est pas la peine que je
c'est
vous fasse...
C'est quasiment un salarié sur deux. C'est, enfin, c'est pas c'est en termes d'heures ou...
Bah, c'est quasiment toutes les femmes, hein. Pour aller vite, puisque la plupart des salariés qui sont à temps partiel sont des femmes. Alors chez eux c'est un peu mieux équilibré que chez nous, mais enfin grosso modo, voilà, c'est à ça qu'on arrive. Donc on a quand même des régulations du marché du travail, et puis disons une espèce de conception de l'intégration des femmes sur le marché du travail qui est tout de même un petit peu différente. Ça ne veut pas dire que le sort des femmes sur le marché du travail soit à l'égal de celui des hommes. Mais sur cet indicateur-là, ça montre tout de même que la manière dont on a géré notre temps de travail est peut-être un peu plus intéressante que dans d'autres pays européens. Bon, on a fait des durées pour l'ensemble des salariés à temps plein, peut-être moins épaisses que les autres, mais en tous les cas, on ne pratique pas le temps partiel, c'est-à-dire finalement le rationnement d'une partie de la population. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et il y a d'autres choses intéressantes à dire dans cette enquête. Moi, je vous recommande d'aller le voir. Hein. C'est sur le site de l'INSEE. Vous tapez publication INSEE Première, vous allez tomber dessus. D'où est venue cette réduction du temps de travail depuis les années 50 ? Alors, si on regarde la situation d'un salarié français aujourd'hui, il travaille 800 heures de moins qu'en 1850, en moyenne. Bon. Alors d'où ça vient cette baisse ? Ben, il y a une grosse partie qui vient du fait qu'on est de plus en plus des salariés et de moins en moins des travailleurs indépendants. Et comme les salariés ont des horaires quand même un peu plus cadrés que les travailleurs indépendants, cette salarisation de la population et des travailleurs a joué pour 250 heures de travail en moins par an. Deuxième poste important... C'est la réduction de la durée hebdomadaire du travail. Elle a fait gagner 380 heures. Et les autres effets, temps partiel ou autre, ça a fait gagner 121 heures. Mais on voit que c'est limité comme apport. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. C'est vrai que les Américains travaillent encore trop. Bon, il faudra leur faire comprendre. C'est vrai que les Japonais travaillent encore un peu trop. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent du fait que comment peut-on rester compétitif vis-à-vis du Japon et des États-Unis alors que nous avons 200 heures de travail en moins par an. On va leur apporter la réponse peut-être tout de suite, hein, pour qu'ils aillent dormir tranquilles. La réponse n'est pas celle qu'on donne parfois un peu trop souvent, mais les travailleurs français travaillent moins que les Américains, mais ils sont bien plus productifs par heure de travail. En fait, ces écarts de productivité ont eu tendance à se lisser au fil des ans. Donc c'est pas comme ça qu'on se rattrape. Comment on se rattrape ? Ben on se rattrape pas. C'est-à-dire que comme on bosse 200 heures en moins par an, eh ben on a un PIB par tête ou par travailleur qui est inférieur de 15 à 20% à celui des Américains. Est-ce que c'est grave, docteur ? Ben, la réponse c'est non. Si c'est bien ça que vous avez voulu, si c'est bien ça que vous avez voulu faire, c'est-à-dire si vous avez voulu travailler moins et produire moins et consommer moins, eh ben voilà, vous l'avez. Mais il ne faut pas du tout croire que ça crée des pertes de compétitivité. Parce que, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, les travailleurs français, s'ils veulent travailler 35 heures, ils sont payés 35 heures. Et ils ne sont pas payés 39 heures. Ils ne sont pas payés 45 heures. Donc, en gros, les salariés n'obtiennent jamais le beurre et l'argent du beurre. Ils ont la réduction du temps de travail, mais ils n'ont pas le maintien du salaire, du niveau de consommation et de PIB qu'ils auraient s'ils travaillaient plus. Cet arbitrage en faveur des loisirs n'est peut-être pas idiot si c'est vraiment ce qu'on a souhaité. Et en tous les cas, c'est pas censé nous faire perdre des positions dans la compétitivité internationale. On peut conclure en disant d'ailleurs, c'est pas tellement nous qui avons des problèmes de compétitivité. Quand on regarde le déficit commercial américain, il est abyssal. C'est le pays du monde qui a la compétitivité la plus médiocre, d'une certaine manière, puisque c'est lui qui a le déficit commercial le plus élevé. Quant à la compétitivité du Japon, elle est aussi en train de se dégrader fortement. Bon. Donc on voit bien que ces questions de temps de travail sont nécessairement plus ou moins déconnectées des questions de compétitivité, sinon tout le monde serait forcément sur la même ligne et on ne pourrait pas s'expliquer des différences.
En parlant de beurre et l'argent de beurre, genre, on est toujours dans une société de labeur, quoi, en fin de compte.
Mais, non. Oui, c'est labeur féminin.
2010.
Ouais. C'est labeur, comme j'ai dit, Jeanne Birkin.
J'étais un peu inquiet là, quand il nous a annoncé, Laurent, qu'il avait envie de parler des 35 heures. Je pensais qu'il allait nous parler de Martine Aubry, mais non. Hein.
Qui est maintenant pour l'allongement du temps de travail, c'est ça que tu voulais dire.
Ben je sais pas, non, mais...
Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en
oui,
reparler, parce que...
Il va falloir rediscuter des retraites.
Ça va être le sujet de l'année, ouais. Donc ça va vite revenir au micro de PFM.
Un sujet complexe, parce que enfin bon, on en reparlera.
catch me.
Tindersticks, extrait de leur nouvel album Falling Down a Mountain.
Et j'ai pas bien entendu le titre de l'album, genre tu peux le répéter s'il te plaît.
Falling Down a Mountain.
Yeah.
Tindersticks, magazine Tumult. On reçoit Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Et dernier sujet, rapidement. Bref, la fabrication des Clio, un enjeu, le fait qu'elle soit fabriquée en France, c'est ça le problème ?
Ou en Turquie. Oui, en tous les cas, c'est au devant de l'actualité, puisque Renault envisage de définitivement produire ses modèles de Clio, non plus à Flins, je crois, mais dans ces usines turques. Et la question fait quand même assez débat, puisque l'industrie automobile française a tout de même été pas mal secourue dans la crise, à juste titre certainement, parce qu'il ne fallait pas laisser quand même s'effondrer le secteur et s'effondrer l'emploi surtout. Mais donc ça pose question tout de même de savoir si c'est un juste retour des choses que les industriels de l'automobile continuent à délocaliser leur production dans ce type de contexte. Alors il faut remettre un tout petit peu les choses en perspective. En fait, la situation est catastrophique, quoi. Pour le secteur automobile, et la manière dont se sont enclenchées les choses paraît encore plus catastrophique. Grosso modo, en 2004, on avait encore un excédent de notre solde commercial lié à l'industrie automobile de 10 milliards d'euros par an. Donc on exportait davantage d'automobiles qu'on en importait, et ceci créait un excédent commercial pour la France de 10 milliards d'euros. On est passé dans le négatif au tournant 2006-2007, et aujourd'hui on a un déficit commercial de 6 milliards d'euros sur le secteur. Alors comment on peut s'expliquer ça ? Il y a une raison conjoncturelle, mais la raison conjoncturelle, elle ne vient pas sauver l'honneur, si j'ose dire, des industriels de l'automobile. La raison conjoncturelle, c'est que la prime à la casse, qui a été 2 000 euros sur des achats de véhicules neufs, pour ceux qui mettaient à la casse leur véhicule ancien. Cette prime à la casse, elle a permis, elle a bénéficié à 600 000 véhicules vendus depuis qu'elle elle a été mise en place. Et grosso modo, elle a servi surtout à des gens qui achetaient des petits modèles d'automobiles. Or, la plupart des petits modèles des constructeurs Peugeot et Renault, eux, ils sont produits de manière délocalisée, c'est-à-dire soit en Slovénie pour Renault, pour Peugeot, soit en République tchèque pour Renault. Et donc, en gros, la prime à la casse a alimenté une demande d'importation d'automobiles Renault ou Peugeot, parce qu'elles sont fabriquées ailleurs. Et donc, quand elles arrivent dans nos concessionnaires, ce sont des importations. Et surtout, donc ça, c'est l'accélérateur conjoncturel. Mais pour qu'il y ait accélérateur conjoncturel, il faut bien qu'il y ait des voitures françaises qui soient produites dans ces pays-là. Or là, quand même, les chiffres sont assez inquiétants. Parce que si on prend les chiffres du troisième trimestre 2009, qu'on regarde un peu la somme des véhicules produits par Peugeot et Renault, eh ben, si on fait la somme des deux, ils en ont produit 833 000 à l'étranger et 360 000 dans l'Hexagone. Donc l'industrie automobile française, c'est plus une industrie automobile française, si on peut dire les choses comme ça. C'est essentiellement de la production d'automobiles délocalisées. Donc là, je pense qu'il y a un véritable problème. Est-ce qu'on accepte de voir disparaître ce type de filière industrielle qui, en plus, tiennent le discours « Oui, mais si on délocalise, c'est aussi pour pouvoir faire notre beurre et pour pouvoir maintenir de l'emploi en France. » Mais en réalité, on s'aperçoit qu'au bout de cette tendance, ce n'est pas le maintien de l'emploi en France qui est réalisé. Alors comment on peut stopper l'hémorragie ? Certains prétendent qu'il ne faut pas s'en occuper et que non, ben c'est la dynamique même des échanges industriels, de la division internationale du travail. Moi, je ne pense pas qu'on puisse imaginer un pays fonctionner sans industrie. Puisque, en parenthèse, si on n'a plus d'industrie, qu'est-ce qu'on exporte ? 90% de nos exportations, c'est des produits industriels. Les services s'exportent beaucoup moins bien. Donc, si on veut rester inséré dans la division internationale du travail, et puis il nous manque tout de même, pas seulement des bananes et des oranges, mais il nous manque des matières premières, du pétrole. Donc, si on veut rester inséré dans cette division internationale du travail, il faut bien qu'on produise des choses ici, qu'on puisse exporter et échanger avec les autres. Comment stopper l'hémorragie ? Ben, je pense qu'on ne peut pas supporter ces inégalités sociales en Europe. Et donc, on doit clairement se poser la question d'un SMIC dans chaque pays européen, au moins adapté. C'est vrai au niveau social des pays en question, mais avec tout de même des dynamiques de rattrapage qui fassent en sorte que la concurrence en Europe ne s'exerce pas par le bas, c'est-à-dire le côté des coûts salariaux. Donc tant qu'on n'aura pas cette régulation européenne d'un SMIC dans chaque pays, avec une visibilité sur le rattrapage entre les différents pays européens, les stratégies de délocalisation continueront. Bon. Et il est important d'avoir de la visibilité, parce que si on dit que dans 7 ans ou 6 ou 7 ans, les écarts se sont rattrapés, bon, les industriels vont se demander tout de suite si ça vaut le coup pour 5 ou 6 ans d'aller...
Mais l'Europe, ça ne suffit pas, Laurent, parce que tu peux délocaliser en dehors de l'Europe.
Oui, mais alors là, alors j'ai pas les chiffres, mais il y a plus de la moitié des délocalisations qui sont en Europe. Hein. Et les délocalisations à l'autre bout du monde, c'est pas vraiment des délocalisations.
La Turquie, par exemple, c'est l'Europe ou pas l'Europe ?
Ça, c'est une dissertation pour le grand oral de Sciences Po. Bon, mais... Tu me troubles. Mais les Renault qui seront produits en Chine ou au Brésil, ça, c'est pas nécessairement de la délocalisation. C'est produire sur place ce qui peut être consommé sur place. Mais là, on a des délocalisations à l'intérieur de l'Europe. Bon, donc c'est quand même quelque chose qu'on doit rattraper par des régulations. Et quand on dit qu'on crée un seul espace économique, créons-le jusqu'au bout. Mettons les mêmes règles sur le marché du travail. Et puis deuxième chose, c'est vrai que tant que la stratégie de développement de l'Allemagne, ce sera la baisse des coûts salariaux en Allemagne, la baisse du salaire réel des salariés allemands, ben comment on peut s'aligner, nous ? ben, la seule manière de nous aligner pour concurrencer d'une certaine façon Volkswagen, peut-être pas BMW parce qu'on n'est pas exactement sur les mêmes segments, ben, c'est à moins de faire la même chose ici, c'est-à-dire de faire baisser les salaires réels, non, c'est de délocaliser pour bénéficier de coûts de production plus bas.
Mais eux ne délocalisent pas ?
Ben,
les Allemands, Volkswagen...
Pour les deux raisons, pour l'une des raisons qu'on a dites, c'est-à-dire que qui a été la grosse pression sur les salaires en Allemagne, ils ont réussi à faire baisser les coûts salariaux en Allemagne, et puis ils ont effectivement aussi, il faut le dire, un positionnement sur la qualité qui rend leurs produits un peu moins dépendants des questions de comparaison de coûts. Donc ça, c'est sûr que c'est pas le mauvais côté, bien au contraire, de l'économie allemande. Il y a un positionnement sur des segments de qualité.
La qualité des produits des voitures allemandes, hein, tu peux en parler à Jean. T'as une voiture allemande, toi, Jean, non?
Oui, mais
la dernière fois que tu m'as emmené à Lille, on a dû s'arrêter pour remplir ton radiateur, hein, il y avait une fuite de liquide de refroidissement. Non, c'est un clin d'œil. Non, mais bon, il faudra qu'on mette en débat l'identité européenne, hein, sur ces questions, je pense. Mais moi, j'ai une question, Laurent, parce que bon, je pense que ces discussions, hein, par rapport à l'industrie automobile en France, il y a quelques années, on a pu les avoir avec l'industrie textile, avec l'industrie sidérurgique.
Justement,
on peut pas concevoir. Par exemple, bon, il y a des pays, l'Angleterre, il y a plus d'industrie automobile. Est-ce que cette industrie automobile dans autant de pays, c'est viable?
Il ne peut pas y avoir de surcapacité, ne peut pas entretenir des surcapacités dans la production d'automobiles. D'ailleurs, sans aborder la question, quel est le type d'automobile qu'on veut pour demain? Et d'ailleurs, ne faut-il pas réduire aussi ce type de moyens de transport et faire un petit peu de place aux autres? Donc ça, c'est indépendamment de ces débats qui sont tout de même importants, qui sont des enjeux aussi stratégiques, il ne s'agit pas de dire qu'il faut entretenir des surcapacités, mais un pays qui abandonnerait complètement son secteur industriel serait confronté à deux problèmes. Alors les Anglais, comment ils ont fait? Les Anglais, ils n'ont plus d'industrie automobile. Ben, les emplois qui étaient relativement qualifiés et qui étaient relativement bien rémunérés dans l'industrie automobile, ben, ils n'ont jamais été retrouvés dans aucun autre secteur. Dans aucun autre secteur. Ce n'est pas les employés à domicile remplaçant les anciens salariés d'industrie qui sont payés au même tarif et qui ne font pas forcément du travail aussi intéressant. Donc il ne faut pas croire que les emplois qu'on supprime dans le secteur industriel, on les retrouve nécessairement ailleurs.
Ouais, mais là, la situation de l'Angleterre n'est pas pire que la situation française.
Quelle a été la stratégie du Labour Party pour dire, bon, ben, on se coupe un bras en perdant notre industrie, en particulier parce qu'ils ont maintenu pendant très longtemps une politique de la livre extrêmement chère. Ben, leur stratégie, c'était de dire, bon, on développe la finance. Et donc, Ils ont compté un maximum pour que la City fasse à peu près 15 à 20% du PIB anglais. Bon, est-ce que c'est un mode de développement intéressant? Non seulement il ne concerne qu'une fraction infime de la population, mais en plus on a vu ce que ça a donné de miser tout son développement sur une activité qui s'est révélée finalement être quasiment parasitaire. Donc si on n'a pas de stratégie de rechange, il faut tout de même se demander comment on préserve son industrie.
Oui, ils ont investi dans le foot, les Anglais.
Loïc Antoine, pour terminer ce magazine Tumulte.
Quand il fait noir dans ma caboche, les jours où tout est un peu moche, où même un sourire devient louche, où je brise tout ce que je touche, à vie devant, devant ma vie et les paupières en parapluie. Il y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de main d'eau et qui me dit dans un sourire. S'engage, que je tremble autant que j'ouvrage. Quand je recompte mes défauts et les soirs où je siffle faux, quand je me sens suant, sale et seul, avec la gueule de traviole, il y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de main d'eau et qui me dit dans un sourire. Quand je détraque et que je tique, que je suis pas traqué, pathétique. Quand j'hurle dans un mauvais roman, que je me mens chaque moment, quand je me sens fiston sans papa, quand ça va pas frère, ça va pas. Il y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de main d'eau et qui me dit dans un sourire.
C'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 15h et à 18h30 et sur le net radiopfm.com. À la semaine prochaine, salut !